Il n'y a pas de problème, mais sauf que le mec en face, il fait 115 kilos.
Il n'y a pas de soutien non plus.
Il n'y a pas de soutien. Un 12 de 115 kilos face à un demi de mêlée, c'est inarrêtable. Techniquement, il arrive dans le même mouvement à tendre son bras. C'est 45 points, probablement 47. La fête est totale pour Toulon dans ce deuxième barrage face à Castres.
Et au final, c'est dur pour les Castrés, le score.
Ça
c'est...
passe pour Jaminet, 47-23 pour Toulon face à Castres. Et la sortie d'un brave David Ribbins qui s'accorde 1 minute 20 de repos et les sourires sur le banc varois avec Baptiste Serin qui multiplie les bises auprès de ses partenaires. Lui aussi va retrouver l'UBB, Baptiste Serin, dans un match qui compte tant pour lui. Et Esteban Abadi,
soirée pas loin, pas loin d'être parfaite pour les varois, parce que j'ai pas de souvenir de blessure, c'est ça hein.
Pas de blessé, aucun blessé. Et Gabin Villiers sera disponible le week-end prochain, mais vu la performance du Tuikuvu,
ah là va falloir les sortir.
Problème en plus.
Ah là, il y a Tuikuvu et Ivan Nicolo, va falloir les sortir parce que vraiment ils ont fait une sacrée performance.
Dréan sera de retour aussi.
Ouais, Dréan,
Ivan Nicolo et élu homme du match par le public de Mayol à la potimètre.
Incompréhensible.
Ça se comprend, mais quand même quel match de Melvin Jaminet.
Moi j'avais une pièce sur Jaminet quand même.
Moi j'ai trouvé notamment en première période toutes les relances de Jaminet, il a commencé à enflammer le match. Je pense que c'est lui qui a mis le rythme du match un petit peu, Jaminet. Hein.
Ah, il a été très bon, Melvin Jaminet, mais aussi gros boulot du paquet d'avant. Marouin qui a fini par faire plier les Castrés.
Facundo Issa aussi, sacré match. Hein.
Ah, Esteban Abadi présent en touche pour pourrir David Ribbins. Les deux premières lignes qui ont été présentes. Et la dernière attaque, Castrez à 3 secondes du terme. Mais ils sont poussés à la faute sur cette dernière mêlée. Et ils peuvent se saluer, les Toulonnais. Le ballon en touche, c'est joué par Ben White. Et la dernière offensive, peut-être pour Jutavai Nicolo, avec Marius Daumont, pour Benjaminet, qui pousse au pied pour Jutavai Nicolo. Est-ce qu'il va arriver à l'avant? Et c'est Van Nicolo! Et c'est Van Nicolo, la soirée complète! Ça dépassera les 50 points! Le festival Jutavai Nicolo jusqu'au bout! Jutavai Nicolo est allé récupérer ce ballon après la touche, après la ligne de ballon mort plutôt. Et Toulon qui va passer 50 points à Castres dans un finish déroutant dans les 20 dernières minutes. Castres qui a explosé devant les pattes de Jutavai Nicolo devant les actions multiples de la ligne de 3 corps varoise.
C'est son dernier match à Mayol sous le maillot du RCT et il l'a bien célébré. Hein. Oh lolo.
Exceptionnel Jutawai Nicolo, franchement on sait même plus quoi dire dans cette fin de match.
Quel joueur, c'est des joueurs pour lequel on paye facilement un billet à Mayol,
ouais, ou un billet à Lyon là, parce que c'est fait hein, le RCT sera en demi-finale face c'est à l'UBB la semaine prochaine. Et j'imagine qu'il y a pas mal d'émotions dans le camp varois et notamment chez les supporters varois.
Et la dernière transformation qui ne passera pas. Score final 52 pour Toulon, 23 pour Castres. Et Toulon qui rejoint Bordeaux-Bègles en demi-finale. Toulon qui se qualifie pour le dernier carré pour la première fois depuis 2017.
Et on peut quand même souligner hein, aujourd'hui la prestation des Varois, notamment la deuxième période où ils ont complètement dominé ces Castrés. Finalement, ils s'offrent une fin de match tranquille, 10 dernières minutes de plaisir pour les supporters de Mayol. Et donc, ils retournent en demi-finale, ces Varois. Et je pense qu'ils vont inquiéter plus d'une équipe dans cette fin de saison, les Varois, avec ce 52-23 infligé aux Castrés, 6 essais à 2. Clément, aujourd'hui, ils ont été impressionnants, notamment en seconde période.
Point impressionnant face à une équipe de Castres qui a quand même rapidement souffert hein, de la blessure de Louis Lebrun, de la blessure de Geoffrey Palisse, du bricolage dans la ligne de trois quarts. Mais cette équipe de Toulon passe enfin un cap, première demi-finale depuis 2017. Et on a les quatre meilleures équipes de la saison dans le dernier carré du top 14. Et ça, c'est incontestable.
Et Mathias, avant de te libérer, avant de libérer l'antenne, oui, aussi laisser la place à Brigitte Lahaye. Il y avait eu quelques doutes les dernières semaines sur le niveau de Toulon avec les contre-performances en championnat. Visiblement, là, on est rassuré.
Plein de confiance avant d'aller à Lyon. Et je pense que le dernier quart d'heure, il est parfait hein, pour se remettre les idées à l'endroit. Ouais. Je pense que ça va être un bel affrontement face à l'Union Bordeaux-Bègles, cette fois avec les équipes au complet, et ça va être intéressant puisque Toulon avait fait un peu tourner là-bas, Bordeaux avait fait tourner ici, cette fois ça sera des équipes au complet, et ça va être un des sommets samedi prochain du côté de Lyon, on a déjà hâte d'y être.
Exactement, on a hâte d'y être et on y sera sur Sud Radio avec François Trio, avec Daniel Herrero, avec toute l'équipe, avec des émissions spéciales en direct de Lyon. Les demi-finales, on les connaît désormais, Bayonne, Toulouse et UBB RCT, ce sera vendredi et samedi prochain. Pour le rugby, on vous retrouve demain dans les informations et dans le grand matin week-end de Jean-Marie Bordry, avec notamment les réactions des Toulonnais et des Castrés au micro de Mathias Merallo dans le journal des sports de Jules Bosquet. Et puis lundi soir à 20h sur Sud Radio avec François Trio et toute l'équipe pour les vraies voix du rugby. Bonne soirée sur Sud Radio. On se quitte avec Brigitte Lahaye.
23h01, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces deux heures sur Sud Radio. Alors il y a une question que peu de gens se posent, et c'est peut-être un peu dommage, c'est comment on se construit dans sa sexualité. Pourquoi par exemple on a ce fantasme, pourquoi on est choqué par telle pratique, pourquoi on adore telle chose et on déteste cette autre chose, puisque la chose, quand on parle de sexualité, c'est souvent le mot qu'on utilise quand on a peur d'en utiliser un autre. Et pourtant, en comprenant mieux comment se construit notre sexualité, eh bien ça permet d'être plus clair avec ses désirs et de choisir le ou la bonne partenaire sexuelle. Alors c'est le projet que je vous propose avec Philippe Breneau qui est avec nous aujourd'hui, et comme ça on va peut-être vous aider à mieux comprendre comment la sexualité humaine se construit, parce que ça n'a rien à voir évidemment avec les animaux et ça dépend de plusieurs critères. Alors bien sûr notre famille, nos expériences, mais également la société dans laquelle on grandit, nos modèles, même si on veut parfois faire pareil que notre modèle ou au contraire prendre le contre-pied. Alors, quand on parle de ce qu'il faudrait dire à nos enfants à l'école, puisque l'éducation à la sexualité est un sujet d'actualité, je crois que c'est vraiment ce sujet qui devrait tous vous intéresser. Donc, je vous invite, si vous avez envie de mieux comprendre votre sexualité, ou si vous avez envie tout simplement d'intervenir, de donner votre avis, vous nous appelez au 0826 300 300. Philippe Breneau, merci d'être avec nous. C'est un sujet que vous connaissez bien, hein, et que vous m'avez d'ailleurs beaucoup aidé à comprendre en m'offrant notamment certains livres formidables. C'est vrai que la sexualité humaine, c'est pas instinctif comme chez l'animal.
Mais oui, Brigitte, le terme que vous utilisez, ça se construit. Et c'est vrai que la plupart des gens, spontanément, on n'imagine pas que ça se construit.
Non,
ça puisque c'est sûr. Moi-même, je dois dire certainement, lorsque j'avais 15, 16, 17 ans, c'était en plus à des époques où on parlait vraiment pas de sexualité, comment pouvait-on imaginer qu'elle soit apprise ? On se dit que c'est quelque chose d'instinctuel. D'ailleurs, je sens que j'ai un appétit, j'ai une tendance. Tiens, je suis attiré par telle ou telle personne. Tiens, ça c'est jouissif, ainsi de suite. Mais déjà à 15, 16, 17, 18 ans, on est déjà très construit. Mmh. C'est-à-dire que énormément d'apprentissages se sont faits, qui fait que nous sommes différents les uns les autres en fonction de nos expériences, qui sont des expériences avec soi-même, dans l'auto-érotisme, dans la façon dont on a découvert notre corps, on l'a touché, on en a fait quelque chose, et puis les rencontres avec telle ou telle personne, qu'elle soit intime ou qu'elle soit moins intime, qui participent quand même à cette construction de la sexualité. Donc quelque chose qui est totalement oui, apprentissage.
Sans oublier les films, les lectures, enfin, il y a des tas de choses qui nous marquent, et aujourd'hui évidemment avec la pornographie, il y a encore quelque chose de plus qui se passe pour beaucoup de jeunes. Donc forcément tout ça, j'ai envie de dire, ça fait une sorte de bouillabaisse dans notre cerveau sexuel. Et puis on va se travailler sur le tas, si je puis dire. Et là encore, nos expériences vont faire bouger notre sexualité.
Mais oui, parce que vous venez de préciser les deux, j'allais dire les deux mamelles, les deux déterminants de la sexualité. Pardon, ce que je décrivais tout à l'heure, cet apprentissage, on apprend avec soi, avec les autres, avec les rencontres, C'est ce qu'on appelle l'apprentissage comportemental. Nos comportements s'apprennent. Et ce que vous venez d'évoquer, Brigitte, c'est la sexualité, elle est apprise comportementalement et elle est socialement construite, c'est-à-dire qu'en fonction des images de la société. Si par exemple on est dans une société qui réprime la sexualité et qui a aucune image.
Prenons par exemple un exemple qui est très très marquant, c'est la masturbation. Pendant des siècles, elle a été taboue, elle a été même stigmatisée et beaucoup de gens se masturbaient certes parfois, mais avec une sorte de culpabilité.
Avec toujours de la culpabilité.
Aujourd'hui, diminue quand même.
Maintenant encore, hein, ça existe.
Je sais.
La culpabilité uniquement parce que, comme c'est quelque chose qui n'est pas dit, on a l'impression que ça doit être interdit. Et beaucoup de milieux qui sont un petit peu proches de, souvent des religions, les grands monothéismes, n'acceptent pas la masturbation parce que, comme tout acte,
c'est du gâchis.
Qui ne permet pas. Mais oui, c'est du gâchis, c'est de la perte de sperme pour les hommes. Pour les filles, on n'en parle même pas, mais en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de l'interdit, parce que c'est à l'opposé de la seule chose qui était pratiquée jusqu'à il y a quelques décennies, c'est-à-dire le rapport hétérosexuel fécondant, qui permettait de donner lieu à des enfants.
Et d'ailleurs, vous parlez de quelque chose d'essentiel, vous parlez de la sexualité reproductive. En fait, c'est assez récent qu'on parle de sexualité récréative ou de sexualité pour le plaisir. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que cette sexualité reproductive qui a marqué des millénaires, hein, elle est encore très très ancrée dans l'imaginaire des gens. Et je donne pour exemple, parce que je l'entends quand même de temps en temps, quand je pose la question à un auditeur et je lui pose la question, est-ce que votre sexualité va bien, et qu'il me répond oui, on a eu 3 enfants.
Oui.
Non, mais vous riez, mais je vous assure que je l'entends au moins une fois par mois.
Oui.
Et ça montre bien à quel point la sexualité reste encore quelque chose qui permet de se reproduire.
Qui permet de se reproduire, et puis qui pour certains est l'alibi. C'est pour ça que j'ai une sexualité. Regardons combien, surtout pour des femmes.
D'où d'ailleurs la critique sur l'homosexualité, puisque ça ne sert pas à se reproduire.
Ça se reproduit pas.
Ou la sexualité des vieux d'ailleurs, qui est aussi assez mal vue, parce que de toute façon, ça sert plus à rien.
C'est pas tout à fait vrai pour les homosexuels, parce qu'il y avait Coluche qui disait les homosexuels, c'est curieux, ça ne se reproduit pas, et pourtant il y en a de plus en plus.
Donc ça doit se reproduire.
C'est-à-dire qu'on permettait la société. Sexualité permissive permet aujourd'hui une sexualité qui n'est pas à fin de reproduction, pas obligatoirement.
Bien sûr. Bon, enfin, tout ça montre bien à quel point c'est complexe. Et alors, on n'a pas encore abordé la question des fantasmes, mais là aussi, nos fantasmes, ils viennent pas comme ça du Saint-Esprit, si je puis dire. Ils viennent forcément de souvenirs oubliés ou de désirs
refoulés,
inavoués. Enfin.
Oui, exactement. C'est-à-dire qu'on est une sorte de cocotte minute avec des pulsions qu'on exprime plus ou moins, que l'on réprime, et qui vont permettre justement que la sexualité soit épanouie. Si on les refoule tout le temps, et ça peut être aussi pour certains le désir d'enfant qu'ils refoulent. Mais oui, lorsqu'on parlait tout à l'heure du lien avec la fécondité, c'est vrai qu'énormément de femmes, et peut-être pas mal de femmes qui écoutent, ont fortement lié la sexualité à la procréation, ce qui fait que si j'ai eu les enfants que je voulais, mais je comprends pas d'ailleurs pourquoi j'arrive plus à avoir de sexualité. Mais si j'ai très fortement lié les deux, eh bien ensuite c'est un petit peu comme si ça servait plus à rien.
Et d'ailleurs c'est souvent ce que j'explique pour les femmes qui n'ont absolument plus de désir au moment de la ménopause. C'est certainement parce que dans leur cerveau c'était très lié
à la reproduction.
Et à ce moment-là, à quoi bon, hein, puisque de toute façon.
Oui.
On va parler de tout ça avec vous.
Mais voilà, et on attend vos questions, vos réponses, vos témoignages.
Et d'ailleurs, je rappelle cette bande dessinée, L'incroyable histoire du sexe, qui est est sorti aux éditions Les Arènes. Voilà un livre qu'on peut donner à ces ados, hein, qui vont leur permettre d'avoir un peu de cours d'éducation à la sexualité.
Pour comprendre
en s'amusant.
Ce que c'est, bien sûr, ça s'amuse, on s'amuse, mais
on
surtout,
devrait, c'est ça qu'on devrait distribuer dans les écoles. En fait.
Mais oui, l'incroyable histoire du sexe. Donc c'est une très belle BD que j'ai faite avec une dessinatrice de très grand talent, mais surtout qui permet de comprendre ce qu'est la sexualité, parce qu'on se projette à la fois dans les autres sociétés et voir, tiens, comment on fait l'amour ailleurs, est-ce que c'est comme chez nous, et puis à la fois dans le temps, est-ce que c'était pareil il y a 100 ans, il y a 300 ans, il y a 5000 ans.
Absolument. En tout cas, merci d'être là pour cette belle émission, Philippe Renaud, et dans un instant, c'est Nicolas qui va prendre la parole sur Sud Radio.
Sud Radio Mende.
101.9.
Sud Radio. 23h01, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Eh bien, c'est en compagnie de Philippe Renaud, psychiatre, anthropologue, sexologue, que nous évoquons la construction de la sexualité. Et on va commencer avec vous, Nicolas. Nicolas, vous allez recevoir le jouet d'hier, hein, puisque c'est le deal. Hein, si vous voulez recevoir le jouet qu'on teste le mardi, il faut témoigner d'ici la fin de la semaine. Et donc, vous êtes avec nous. Merci en tout cas. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire justement sur votre sexualité ?
Eh bien, écoutez, en entendant déjà bonjour Brigitte et bonjour
Philippe.
Voilà. Bonjour Philippe. Déjà, en entendant votre introduction, c'est vrai que ça m'a émoustillé parce que moi j'ai été élevé par une grand-mère italienne, ma mère ayant divorcé très jeune, elle n'a pas trop eu le temps de s'occuper de moi. Et du coup, la sexualité était très taboue. À tel point que quand, à l'adolescence, je lui présentais des petites amies, si elle avait trop de maquillage ou si elle était habillée en jupe ou quoi que ce soit, j'avais le droit le soir à la réflexion que c'était pas bien,
c'était une pute.
Quelqu'un. Eh oui. C'est vrai.
Non, mais c'est fou parce que. Oui, c'est fou parce que. Et on l'entend encore, ça. Hein, dès qu'une femme n'est pas respectable, on a tout de suite. Ce qui prouve qu'il y a encore du boulot. Hein.
Oui. Et du coup, ma grand-mère, voilà, m'a un peu cadré là-dessus, à tel point qu'à un moment, j'étais obligé de me cacher. Mais ça amenait en moi un profond respect pour les femmes, beaucoup de sensibilité, beaucoup d'écoute. Et ma sexualité a débuté avec ce que j'avais en moi, de ce que m'avait transmis ma grand-mère et ma mère également. Mais je me suis rendu compte qu'à un moment, les jeunes filles, là je vous parle de l'adolescence, même à l'adolescence, des jeunes filles m'ont choqué parce qu'elles allaient même trop vite et trop loin pour moi et j'étais pas prêt dans ma tête parce qu'on m'avait mis un cadre.
Oui. Et ce que vous dites est intéressant et important parce que, en effet, l'homme n'aime pas trop quand la femme est plus entreprenante que lui.
Eh oui. Et je m'étais mis en tête que je devais la protéger, parce que je protégeais ma maman, je m'occupais aussi de ma grand-mère. Et en fait, il y avait une petite erreur au départ que j'ai dû travailler sur moi et j'ai dû garder ma part de féminité et sensualité, mais amener aussi autre chose qui était attendue par mes partenaires.
Mais en tout cas, ce qu'on peut quand même dire, et bravo à votre grand-mère, c'est qu'au moins vous respectez les femmes depuis votre adolescence, enfin depuis toujours. Ouais. Et ça, c'est quand même aussi très important. On parle souvent des hommes violents, des hommes, etc. Ouais. Mais les trois quarts du temps, ce sont soit des hommes qui ont eu un père violent, soit une mère qui avec beaucoup trop d'emprise, et donc il se venge sur les autres femmes. Mais une femme, enfin une mère qui élève correctement son garçon, normalement, l'homme respecte la femme.
Oui, puisqu'on est en train de parler d'apprentissage, de modèle, et alors je sors même un peu de la sexualité. Puis regardez, c'est quelque chose qui fait penser aux faits divers de violence, ce qu'on a entendu hier. C'est incroyable, puisque depuis les couteaux, l'attaque au couteau par des ados, il y a 10 ans, ça n'existait pas. Enfin, c'était anecdotique. C'est-à-dire qu'en fait, il y a... c'est le problème pour... j'en viens à ce qu'on est en train de dire. Pour l'apprentissage, c'est le modèle. C'est-à-dire que si vous n'avez pas vu...
Et je me permets de dire une chose qui est quand même très importante à comprendre, c'est que symboliquement, le couteau, c'est sexuel, c'est agressif.
C'est une pénétration.
On est bien dans le corps de l'autre.
Absolument.
Et donc, on peut bien comprendre que derrière tout ça, il y a certainement aussi quelque chose à comprendre sur la sexualité de ces jeunes qui sont un peu trop livrés à eux-mêmes et qui ont peut-être trop vu des images pornographiques agressives, etc.
Mais les gestes, en fait, on ne sait que les reproduire. Et par exemple, quand on est dans un milieu, et vous le disiez avec votre mère, votre grand-mère, où on ne voit pas de violence, on ne va pas l'inventer comme ça. C'est-à-dire qu'on la reproduit. Et c'est très vrai qu'ensuite, vous vous trouvez dérouté, puisque vous avez appris des codes dans lesquels il n'y a pas de violence.
Oui.
Et puis, vous avez dit tout à l'heure, en parlant, tiens, je n'avais d'image ou un truc comme ça, en parlant des filles que vous pouviez rencontrer, que de ma mère ou ma grand-mère. Et oui, c'est ça la chose qui est compliquée. C'est qu'à la fois, ce sont des femmes, mais ce sont des femmes auxquelles on touche pas, puisqu'on fait pas l'amour avec sa mère ni avec sa grand-mère.
Ah
et
oui,
la grande difficulté, c'est que très souvent, on va pouvoir, si on les investit trop, on va être en difficulté, et quelquefois dans une relation de force avec une partenaire, si par exemple elle vous prend pour objet, ben effectivement, là on se trouve désarmé. Vous voyez, on parle en termes de
ça m'est arrivé.
Voilà.
Ouais. Mais justement, Nicolas, je me permets de vous poser la question, puisque vous avez l'air d'être aujourd'hui assez libre. Donc vous démarrez votre vie sexuelle avec une éducation un peu catho, avec des femmes qui vous apprennent à beaucoup respecter les femmes. Est-ce qu'au fond, au début, vous n'étiez peut-être pas assez agressive justement sexuellement avec les femmes?
Ben oui, exactement. Et j'ai une de mes partenaires qui m'a fait remarquer en me disant... En fait, je me souviens d'une aventure. J'avais une vingtaine d'années,
oui.
Et ma partenaire commence à me dire des mots assez durs, assez crus,
oui.
Et en me disant fais-moi du mal, et ça m'a désarçonné. Je me suis dit mais je peux
bien
pas.
Sûr, oui.
Ouais, ouais, ouais.
Je ne ferai pas de mal à ma grand-mère.
Non mais c'est intéressant. Vous voyez, merci de votre réponse sincère, oui. Nicolas, parce que ça montre bien aussi que on attend d'un homme aussi un peu de d'agressivité dans le sens d'actif et pas évidemment
exactement.
Dans le sens violent. Hein.
Exactement. Et une histoire aussi qui m'est arrivée dans un bar, en fait, j'ai été dragué par une...
Mm-hmm.
Des fois, c'est comme des épreuves, presque. J'ai été dragué par une femme assez forte de caractère. Mes amis me regardaient, m'a directement proposé des choses vraiment... Mais j'étais désarçonné à tel point que mes copains se sont moqués de moi en me disant « Mais qu'est-ce qui t'arrive ?» Et moi, j'avais l'impression d'être presque violé, parce qu'elle m'avait mis la main là où j'ai eu au panier, qu'on peut le dire.
Mm-hmm.
Et pour moi, c'était pas des codes que je connaissais. Donc j'ai dû me faire petit à petit comme un enfant. J'ai dû apprendre la sexualité. Bon, après les partenaires sont pas tous comme ça, mais avec des partenaires plus exigeants, plus actifs, il a fallu que je me renforce. Ouais.
Oui, et puis il y a une chose. D'ailleurs, vous le disiez tout à l'heure, quelque chose comme j'ai dû travailler sur moi. Oui, vous avez un niveau de réflexion parce qu'il y a l'apprentissage que l'on fait dans les comportements avec la réaction d'une partenaire, ainsi de suite. Mais vous avez bien dit, c'est parce que par la réflexion. Peut-être par un travail personnel de réflexion que vous avez pu dépasser le fait que toutes les femmes sont pas ma mère, ma grand-mère et au contraire, c'est même pour ça, c'est comme ça que ça va devenir des partenaires intimes parce qu'on vit avec les parents, avec la famille, une intimité qui est non sexuelle, hein, qui est non agie sur ce plan-là, mais c'est une profonde intimité. Et c'est pas du tout la même qu'on peut avoir avec une personne que l'on va avec qui on va avoir cette sensualité qui est justement qui serait incestueuse.
Et je n'imagine pas que ce soit votre cas, Nicolas, vous semblez tout à fait à l'aise aujourd'hui, mais le problème, par exemple, de personnes qui auraient été éduquées un petit peu trop dans justement la culture ou religieuse et où il faut respecter la femme, etc., peut très bien, en tant qu'homme, à un moment donné, avoir une femme avec laquelle il ose pratiquement plus faire l'amour parce que c'est la mère de ses enfants, et ensuite il va à l'extérieur chercher, entre guillemets, des putes. Donc on voit bien comment c'est compliqué aussi pour les hommes de trouver la bonne partenaire qui correspond.
Oui, une part, alors vous voyez, c'est pas votre histoire, mais pour des auditrices, des auditeurs, une part de l'extinction du désir dans le couple peut venir de l'investissement trop maternel, par exemple pour un homme qui investit sa compagne comme et d'ailleurs quelquefois du fait qu'il y a des enfants, on va l'appeler maman et puis elle va l'appeler papa. Oh, mais ça se faisait traditionnellement, ça se faisait.
Ça se fait toujours,
mais à ce moment-là très vite, il y a plus de sexualité parce qu'on baisse pas son père ou sa mère.
Ah ouais, non, j'en suis pas là. Par contre, ce que ma grand-mère et ma mère m'ont peut-être transmis, je le comprends aujourd'hui. Ma fille a 15 ans. J'ai un grand qui a 3 ans de plus. J'ai eu aucune difficulté parce qu'il m'a présenté ses petites amies. Mais ma fille, j'ai du mal. Je ne peux pas la savoir dans les bras d'un adolescent ou faire des bisous. Pour moi, c'est tabou et j'arrive pas à franchir le pas. Alors ça fait rire tout le monde autour de moi, mais j'arrive pas à lui parler.
Alors sur un plan, je peux vous aider un tout petit peu sur un plan psychanalytique. Voilà comment on interprète les choses, Nicolas.
Oui.
Vous étiez tellement proche de votre grand-mère que vous avez fait un transfert. Vous êtes tellement proche de votre fille que c'est difficile pour vous d'imaginer qu'il y a un homme entre les deux.
Possible.
Voilà, mais ça veut pas dire du tout. Ça veut pas dire du tout qu'il y a quelque chose de l'ordre du sexuel. Hein. On parle vraiment d'amour intime profond.
Oui, et puis d'une symbolique que l'on vit. C'est cette symbolique qui nous maintient à distance.
Ça vous parle ?
Elle doit partir en colonie, j'en suis malade en fait.
Oui, c'est ça.
je voudrais être moniteur.
Il y a quelque chose de très fusionnel entre votre fille et vous, comme il y avait quelque chose de très fusionnel avec vous et votre grand-mère.
C'est vrai, mais je ne pensais pas avoir ça en moi et le transmettre. Je pensais que c'était du passé.
Bah, maintenant que vous avez peut-être la piste, il faut travailler dessus pour défusionner un peu.
C'est vrai, merci.
Et je vous en prie, merci à vous Nicolas.
Merci Nicolas. Beaucoup.
On se retrouve avec le Love Conseil, on va parler de la honte justement.
Aujourd'hui avec Philippe Bruneau, nous parlons de la construction de notre sexualité et quel rôle jouent notre éducation, notre culture ou nos expériences. Venez participer à l'émission au 0826 300 300.
Écoutez Sud Radio Le Havre en DAB+.
Sud Radio.
On s'était dit rendez-vous dans 10 ans, même jour, même heure, même pomme. On verra quand on aura 30 ans, sur les marches de la place des grands hommes. Le jour est venu et moi aussi, mais je veux pas être le premier. Si on n'avait plus rien à se dire, ici, ici, je fais des détours dans le quartier. C'est fou ce qu'un crépuscule de printemps rappelle le même crépuscule d'il y a 10 ans. Trottoir usé par les regards baissés. Qu'est-ce que j'ai fait de ces années? J'ai pas flotté tranquille sur l'eau. J'ai pas nagé le vent dans le dos. Dernière ligne droite, la rue sous flot. Combien sont là? 4, 3, 2, 1, 0. T'es dit rendez-vous dans 10 ans, même jour, même heure, même pomme. On verra quand on aura 30 ans, sur les marches de la place des grands hommes. J'avais eu si souvent envie d'elle. La belle Séverine me regardera-t-elle? Eric voulait explorer le subconscient. Remonte-t-il à la surface de temps en temps? J'ai un peu peur de traverser le miroir. Si j'y allais pas, je me serais trompé d'un soir. Devant une vitrine d'antiquité, j'imagine les retrouvailles de l'amitié. T'as pas changé, qu'est-ce que tu deviens? Tu t'es marié, t'as 3 gamins. T'as réussi, tu fais médecin. Et toi Pascal, tu pars toujours pour rien. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans, même jour, même heure, même pomme. On verra quand on aura 30 ans, sur les marches de la place des grands hommes. J'ai connu des marées hautes et des marées basses, comme vous, comme vous, comme vous. J'ai rencontré des tempêtes et des bourrasques. L'amour mortel, une nouvelle a fait place. Et vous, et vous, et vous. Et toi Marco, qui ambitionnais simplement d'être heureux dans la vie. As-tu réussi ton pari?
François, et toi Laurence, et toi Marion, et toi Gégé, et toi Bruno, et toi Evelyne. Et ben c'est formidable, les copains, on s'est tout dit, on serre la main. On peut pas mettre 10 ans sur table, comme on étale ses lettres au Scrabble. Dans la vitrine je vois le reflet d'une lycéenne derrière moi. Elle part à gauche, je la suivrai si c'est à droite. Attendez-moi, 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 attendez-moi. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans, même jour, même heure, même pas. On verra quand on aura 30 ans si on est devenu des grands hommes. Des grands hommes. Tiens, si on se donnait rendez-vous dans 10 ans.
Brigitte Lahaye, Sud Radio, le Love Conseil.
Eh bien Philippe Brenon, on va parler de la honte. C'est le Love Conseil du jour, apprivoiser sa honte. C'est vrai qu'on se sent assez souvent honteux dans l'intimité, et c'est forcément un handicap, hein. Et puis ça n'a rien à voir avec la pudeur. Je crois qu'il faut quand même déjà bien faire la différence. La pudeur, c'est assez normal, hein. On va garder pour soi une part de son territoire intime. L'opposé de la pudeur, on pourrait dire en quelque sorte, ce serait l'exhibitionnisme. Vous êtes d'accord avec ça, Philippe Brenon?
Oui.
Et la honte, en fait, ça serait presque une réponse un peu inadaptée à une situation. Et la honte, elle s'inscrit souvent durant l'enfance, d'ailleurs. Et elle est dictée par les autres. Oui. Ou plus exactement, elle est due à cause des autres, puisque c'est le regard des autres qui va nous rendre honteux. On n'est pas honteux tout seul. Alors, sauf si on est très catho et qu'on croit que Dieu nous regarde de là-haut quand on se masturbe. Mais en principe, la honte, c'est le regard des autres qui fait qu'on va se sentir honteux. Et la honte, en fait, ça sert à cacher quelque chose. Et c'est ce qu'on veut cacher qui fait qu'il faut le découvrir si on veut arriver à apprivoiser sa honte. D'où la difficulté, parce que les 3/4 du temps, on ne sait pas pourquoi on a honte. Hein. C'est très complexe. Par exemple, si vous avez honte de vous montrer nu, c'est peut-être parce que vous avez un complexe ou parce que ça provoque un désir trop fort que vous n'assumez pas. Ou c'est parce que vous trouvez que la nudité c'est pas beau, que l'être humain nu n'est pas beau. Enfin bref, c'est comme ça qu'on arrive à dépasser sa honte. Et c'est important parce que quand on a beaucoup de honte dans la sexualité, c'est un handicap.
Bah, quand on a beaucoup de honte, on n'est pas bien. La honte, je crois que c'est important aussi de le considérer comme ça. Nous avons des émotions. Joie, tristesse, la colère. La honte est la seule émotion sociale. C'est-à-dire qu'on peut être triste dans son coin, être joyeux, peut être en colère. Il n'y a pas besoin qu'il y ait des interlocuteurs. Là, sans personne, il n'y a pas de honte. On est sur une île déserte seule, on n'a pas de honte. Donc c'est une émotion sociale qui est construite, vous le disiez tout à l'heure, par le regard des autres, et puis par les valeurs de la société. Donc, d'une certaine façon, ça amène à essayer de dépasser le regard qu'on peut porter sur soi. Et il y a qu'à voir de quelle façon ça a à voir avec l'estime de soi et puis la construction de cette estime qui s'est faite d'abord dans la famille, dans le groupe très proche, qui très souvent, on le sait encore, est très dévalorisant pour les femmes, parce que la plupart des femmes vont avoir des hontes.
Oui, beaucoup c'est vrai plus que les hommes. Plus fréquent.
Parce que, tiens, par exemple, la honte de soi. La majorité des hommes imbus d'eux-mêmes, ils ont tel narcissisme qu'ils ne peuvent pas avoir honte.
Et d'ailleurs, on devrait conseiller aux parents de jamais dire à son enfant « tu devrais avoir honte ». parce que c'est vrai que c'est pas, il y a pas, quand
a
un,
pas
un enfant, quand un enfant
honte,
fait une bêtise, il fait une bêtise, c'est pas, oui. c'est pas une raison pour lui dire qu'il devrait avoir honte. Il me semble. Après, s'il se met tout nu devant les invités, ça, oui, on peut peut-être le,
ouais, mais
le
enfin,
cadrer.
C'est pas honteux. On peut, s'ils sont assez petits, on va tout simplement leur expliquer. Il faut que ce soit le parent. C'est mieux le parent du même sexe. Hein, je veux dire, même s'il y a des gens qui puissent dire, bon, ben, ça se fait pas devant tout le monde. Tu fais ça dans ta chambre si tu veux. Mais il n'y a pas de raison d'avoir honte, non. Parce que je crois que c'est quelque chose qu'on va se traîner pendant longtemps,
c'est
qui
ça,
est très
hein.
invalidant. Qui peut donner des, alors après, des mécanismes psychologiques, on va éviter tout ce qui va procurer de la honte, on va devenir un peu phobique, et ça c'est tout de même pas la peine.
On continue avec Christelle qui est avec nous. Bonjour Christelle.
Bonjour Brigitte, bonjour Philippe.
Bonjour Christelle.
Alors, je rejoins ce qu'a dit Nicolas, votre précédent auditeur. Moi aussi, je viens d'une famille un petit peu, pas catho, mais avec des idées un petit peu arrêtées. Alors, une éducation, on n'a pas été formé trop à une éducation sexuelle. Il y avait beaucoup de tabous. Mes parents sont un couple très aimant. Ma maman, pas trop dans les câlins, dans la démonstration.
Ça aussi, ça joue énormément, suivant la manière dont on grandit, et si on a une famille où on est très touche-touche, comme on dit, ou au contraire très réservé, ça induit un comportement différent.
On va apprendre à être en proximité ou non des autres, à jouir, c'est-à-dire avoir du plaisir à faire telle ou telle chose. Hein. C'est vrai, tous les petits gestes vont construire notre sexualité, même s'ils ne sont pas sexuels.
C'est vrai. Alors qu'aujourd'hui, je me suis rattrapée, je parle beaucoup avec les gestes, je vais vers les gens, voilà. Le paradoxe. D'autre part,
qu'est-ce qui vous a permis justement de libérer ça?
Ah oui.
Je suis partie vers le soin.
Oui.
Et du coup, tout ce qui est non-verbal pour moi est très, très important.
Et vous avez peut-être découvert aussi le bien que vous faites par le toucher avec vos patients.
Complètement.
Oui, oui.
Voilà. Même eux, quand ils n'arrivent pas à verbaliser une émotion,
oui.
ne serait-ce que le toucher ou le regard exprime beaucoup de choses.
Et oui, et ce que vous dites est tellement essentiel. Si tout le monde pouvait l'entendre.
Oui.
Alors après, c'est toujours pareil, c'est qu'il y a toucher et toucher.
Oui.
Aujourd'hui, on a tendance aussi à penser que le toucher, c'est peut-être tout de suite du harcèlement, c'est toute la complexité.
Il faudrait le consentement pour le moindre toucher.
Oui. Voilà, donc je suis partie avec une base qui était un petit peu handicapante pour moi, et malheureusement, à l'adolescence, j'ai subi une agression qui a renforcé, comment dire, un inconfort, même une honte, une mauvaise estime de moi, qui a fait que aller vers l'autre, et c'était très compliqué, surtout l'homme.
Donc vous avez été violée, c'est ça?
Agressé
physiquement, ouais. c'est-à-dire agressé physiquement pour qu'on vous vole votre sac ou je ne sais quoi.
Oui, enfin, on m'a dénudé dans la rue.
Ah oui, c'est une agression sexuelle.
Une agression sexuelle.
Tout à fait.
Donc pardon, là, il y a à la fois violence et honte, parce que vous vous êtes retrouvé exhibé devant le regard des autres.
Mais bien sûr.
Tout à fait. Et pas à l'écoute non plus de la police, pas à l'écoute de la famille. Voilà. Donc, ça a été très compliqué d'avoir confiance après envers l'autre. Voilà. Et c'est les expériences qui ont fait que j'ai gagné en assurance. Petit à petit, ça a été très compliqué, très long.
Oui, c'est important et ce que vous évoquez, pardon, être dénudé en public, enfin en public dans un lieu public, Je ne sais pas s'il y avait des observateurs ou non, mais c'est exactement pareil. Vous savez, ça fait penser à un passage de la Bible. Je ne suis pas un grand bibliophile ou man, si, de livres, oui. Mais dans la Bible, il disait, ils se retrouvèrent nus et ils eurent honte. C'est quelque chose qui apparaît au début de l'humanité, honte de la nudité, c'est ce qu'on va appeler la pudeur. Ça n'existe pas chez les animaux. Et tout d'un coup, on va se couvrir, et notamment couvrir les organes génitaux. Et c'est fondamentalement ce qui est humain. C'est peut-être ce qui est le plus humain et qui va amener, lorsque de façon traumatique, là, ce que vous avez vécu, eh bien, c'est justement quelque chose qui est provoqué, une honte provoquée. C'est pas facile du tout de l'avoir dépassé. Si vous y êtes arrivé, c'est bien. Vous en ressentez toujours des stigmates, des choses difficiles à vivre encore?
À travers ma fille.
Oui.
Beaucoup d'appréhension.
Oui, oui.
Alors, je l'ai dépassé, là, maintenant, ça y est.
C'est-à-dire que vous aviez peur que ça arrive à votre fille, hein, c'est ça?
Oui. Dès qu'elle était un petit peu dévêtue, enfin, dès qu'elle avait des hauts qui étaient un petit peu ouverts, c'était très, très compliqué.
Oui. Pour vous, c'était un appel au risque de se faire agresser.
Et c'est très compliqué. On est dans une société dans laquelle, regardez, il y a 50 ans maintenant, il y a une liberté, une libération sexuelle dans laquelle on va, pendant plusieurs décennies, être beaucoup plus libre dans des comportements où même un peu de nudité ne gênait pas. Et on se retrouve aujourd'hui avec beaucoup d'injonctions dans l'autre sens. La moindre chose peut donner attention, consentement, et en définitive, on se rend compte que l'équilibre est très fragile entre ce qui provoque des sentiments, et notamment le sentiment de honte, parce que dès que maintenant c'est interdit, il va y avoir de la honte, alors qu'il y a eu une époque où ça l'était beaucoup moins. Et vous avez sûrement grandi, lorsque vous étiez enfant, dans une époque qui était peut-être plus libre, et votre traumatisme l'a ravivé, ça c'est évident.
Oui, parce que suite à l'agression, je mettais des cols roulés,
Mais justement, est-ce que vous avez eu le sentiment de vous être fait agresser parce que vous étiez habillé un peu trop sexy ou pas?
Pas du tout, j'avais juste un
D'accord.
polo.
Oui, donc vous n'êtes absolument plus, parce que parfois il peut y avoir dans l'esprit, on n'est jamais responsable d'être agressé. Hein, c'est,
je l'ai vécu comme responsable. Hein.
Oui, c'est
qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné il a été vers moi et pourquoi moi?
Oui, mais la seule explication éventuelle, c'est peut-être parce que vous étiez un petit peu prude et qu'il a senti chez vous cette fragilité-là. C'est la seule. Mais en aucun cas, vous n'êtes responsable.
Ah oui,
mais c'est intéressant. Je suis pas surprise de votre réponse. C'est intéressant de voir que vous vous êtes senti responsable, mais dans une éducation qui aurait été plus libre, vous ne seriez peut-être pas senti responsable et vous n'auriez d'ailleurs peut-être pas été agressé.
Oui.
Alors après, c'est que des peut-être. Hein.
Oui, mais voilà, peut-être pas été agressé, ça c'est vrai que les comportements sont différents. Il y a qu'à voir lorsque il y a des faits qui se sont passés au niveau des agressions sexuelles dans le cinéma. Il y a certaines actrices qui ont dit, mais moi jamais il n'aurait fait ceci ou cela. Mais oui, parce que l'attitude tranquille de telle ou telle personne fait que cette personne n'ira pas vers quelqu'un qui en impose un petit peu,
le prédateur va toujours vers celle qui ressemble plus à une proie, c'est évident.
En tout cas,
vous n'étiez en aucun cas responsable, ça c'est sûr. Mais en attendant, le fait que vous vous soyez senti un peu responsable a rendu certainement plus difficile le fait de surmonter le traumatisme.
Tout à fait, et d'autant plus difficile après avec des rencontres avec des hommes. Je m'autorisais pas à croire qu'on pouvait. Je suis tombée amoureuse d'un jeune homme de très beau, avec des beaux yeux bleus, très brun, style un peu italien. Et je me suis dit, mais est-ce que j'y ai droit, quoi? Parce que je m'autorisais pas à en croire à l'amour, à penser qu'un homme pouvait me regarder autrement qu'à travers un objet sexuel. au départ.
Et vous voyez, c'est là où, en effet, le fait qu'on reconnaisse aujourd'hui les agressions et que les femmes soient plus entendues, je pense que ça les aide quand même à se reconstruire plus, parce que vous l'avez dit, hein, vous, on vous a pas vraiment écouté et vous n'avez pas été très soutenue.
Oui. Du tout.
Ben merci Christelle, en tout cas, de
merci
ce témoignage.
Beaucoup,
merci beaucoup. On fait une petite pause et on se retrouve dans un instant sur Sud Radio.
Écoutez Sud Radio Rouen en DAB+.
Sud Radio.
She goes out at the end of the week. Full makeup in the mirror. So excited to finally meet the man who will see her. She checks in, but she doesn't hear back. And she's already parking. Behind her. Oh, think twice, 'cause it's another day for you and me in paradise. Oh, think twice, 'cause it's another day for you. You and me. Start of the night, all her fears turn to anger. Takes her phone out before she can cry, just to find someone near her. She checks in, but she doesn't hear back. And she's already parking, patiently waiting to see behind her. Oh, think twice, 'cause it's another day for you and me in paradise. Oh, think twice, 'cause it's another day for you. You and me in paradise.
Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Nous continuons à vous expliquer, grâce à Philippe Bruneau qui est avec nous, psychiatre, anthropologue, sexologue, comment votre sexualité se construit. Ben oui, ça se construit, la sexualité. On n'est pas dès le départ capable d'avoir la relation sexuelle qu'on a envie. Hein. On découvre au fur et à mesure nos désirs et nos fantasmes. Virginie, bonjour, merci d'être avec nous.
Bonjour Brigitte, bonjour Philippe.
Bonjour Virginie.
Alors effectivement, ça se construit. Et alors moi, ça a très mal commencé parce que j'ai grandi en tant qu'aînée d'une famille très nombreuse et à la campagne. Alors j'assistais bien sûr aux ébats des animaux. Et alors on disait...
Ce qui est déjà pas mal. Hein.
Je disais... disait, tiens, enfin, on se disait les uns les autres, les enfants, tiens, ils se montent dessus sans comprendre ce qui s'est déroulé sous nos yeux. Et nos parents nous réprimandaient quand on regardait ça. Je me souviens très bien, ils nous faisaient partir, on sentait qu'il se passait quelque chose dont il ne fallait pas parler. Et mon éducation sexuelle, elle s'est résumée à cette phrase. Quand à 13 ans j'ai eu mes règles, je suis arrivée en hurlant, maman je vais mourir, j'ai du sang, j'ai du sang. Sa réponse a été, mais non, ça veut dire que tu es une femme maintenant. Et je n'ai plus jamais entendu parler de sexualité.
C'est terrible. Hein.
Et mon père a expliqué l'absence annuelle de ma mère en disant, elle est allée acheter un bébé.
C'est horrible.
Par la suite, quand on me demandait pourquoi tant d'enfants dans la famille, je répondais malicieusement que je pensais que mes parents n'avaient pas bien compris comment les enfants arrivaient. Et je dois dire qu'il m'arrive encore aujourd'hui de me dire, est-ce qu'ils savaient? Est-ce qu'ils avaient bien compris? Alors, moi, j'ai pas souvenir de jeux genre touche-pipi lorsque j'étais enfant, parce que j'ai grandi en m'occupant des bébés qui arrivaient chaque année. Mais je sais que je me souviens très très bien ma mère qui grondait mes frères lorsqu'ils touchaient leur sexe, sans pour autant jouer avec. Mais par exemple, ils pouvaient avoir leurs mains dessus ou quelque chose. Enlève ta main, c'était proscrit. Et je me souviens d'une scène d'une de mes petites sœurs qui devait avoir 4 ans, à qui on avait attaché les mains derrière le dos parce qu'elle ne cessait de les mettre dans sa culotte.
Oui, bien sûr. Oui.
Alors, quand j'ai eu moi-même des interdits, ou en tout cas j'ai été marquée par ces interdits, et aujourd'hui encore, je ne sais pas me donner du plaisir toute seule.
Tellement ça a été tabou, tellement ça a été réprimé. Et donc il y a une sorte de gendarme intérieur en vous qui vous empêche d'y aller.
Alors oui. J'arrive, j'ai beaucoup de plaisir parce que j'ai la chance d'avoir par exemple des seins qui sont extrêmement sensibles et j'arrive à l'orgasme très très bien avec la poitrine. J'arrive également à l'orgasme.
C'est pas si fréquent.
Non, c'est pas si one
love. Moi c'est électrique, hein, c'est incroyable. Oui. Et j'ai la chance d'avoir eu des amants qui m'ont donné beaucoup, qui me donne encore beaucoup de plaisir, mais toute seule, je n'y arrive pas. Et je me rappelle d'un jour où je devais avoir 26, 27 ans, je rentrais d'un vol long courrier. J'avais lu pendant les 6 ou 7 heures de vol un livre sur les geishas. Et lorsque je suis arrivée à destination, j'ai pris conscience que j'étais toute mouillée. Et je me suis dit, mais attends, ça, j'ai jamais connu avec mon mari à l'époque. Enfin, moi, je me suis mariée avec le premier homme que j'ai connu. Moi, je devais être aussi la première femme. Bon, c'était pas le top avec lui, sauf au niveau des seins. Et avec l'émotion que j'avais eu ce livre, j'ai commencé à lire les livres. Alors, j'ai jamais regardé un livre un film porno.
Non, mais vous avez lu des livres érotiques qui vous ont fait mouiller, comme on dit.
Et la masturbation, le traité sur les caresses, l'éloge de la masturbation, je les relis encore. Et aujourd'hui, même à l'âge que j'ai, et je ne suis pas toute jeune du tout, et malgré toutes mes tentatives avec les jouets intimes, et je dois en avoir une douzaine parce que j'achète quasiment tous ceux dont vous parlez dans les émissions, eh bien je ne parviens toujours pas toute seule à me donner du plaisir.
Eh bien Virginie, Philippe et moi, on va vous donner l'autorisation d'avoir du plaisir en vous masturbant.
Exactement, Brigitte l'a très bien dit.
Mieux.
Mais je ne plaisante pas, je vous donne cette autorisation je peux vous envoyer papier signé.
Brigitte le dit bien, vous avez bien entendu, souvenez-vous des mots qu'elle vient de vous dire, parce que d'une certaine façon, à l'intérieur de soi, il y a une part qui a besoin d'être autorisée. Et il se trouve que quelqu'un vient de vous autoriser. Et vous n'avez rien d'autre à faire, vous le verrez. Mais c'est très vrai que ça marche comme ça, parce que à un certain moment, vous avez dit, t'as pas le droit de faire quelque chose avec toi-même. Et là, on vient de vous autoriser, Brigitte vous a autorisé, et vous allez voir comment c'est même aussi simple que ça. Moi, je voulais revenir sur quelque chose de formidable que vous avez dit tout à l'heure, parce que vous avez dit, tiens, lorsque pour la première fois j'ai mes règles, je dis maman, je vais mourir, je saigne. Elle dit non, tu es une femme. C'est vrai qu'il y avait deux étapes et dans lesquelles traditionnellement, c'est dans le milieu rural, on le disait tout le temps, les règles, c'était ma fille, tu es une femme. C'était avoir un premier enfant. Ma fille, tu es une femme. Mais on ne le disait jamais pour la sexualité, puisqu'il s'agissait que de fécondité. Et aujourd'hui, où on a séparé les deux, hein, on peut avoir un enfant et on peut jouir de sa sexualité, eh bien, tu es une femme, ça va être, si on veut, le premier rapport ou la première jouissance avec soi ou avec quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose qui a changé il y a pas très longtemps, il y a une cinquantaine d'années, dans le fait de devenir, alors c'est très vrai pour les femmes, hein, devenir homme, ça n'existe pas, ça se dit pas. on devient femme, disait Beauvoir.
Et vous savez, sur cette histoire de sein, on vous titille les mamelons et vous jouissez, moi je serais presque en train d'imaginer, et je pense que ça tout à fait probable, qu'il vous avait dit que vous étiez beaucoup occupé de tous ces petits enfants, et bien certainement quand vous étiez une petite fille, bien il vous titillait un peu les seins, et ça a été vos premières sensations agréables.
C'est possible, mais je sais que je me souviens que je me cachais quelquefois quand il pleurait beaucoup, quand il y en avait un qui pleurait beaucoup, j'allais dans une chambre, où je me cachais dans un des appentis de la ferme avec le bébé, et je lui donnais mon sein qui était plat,
voilà.
J'étais plate comme une limande, et effectivement je faisais ça.
Et ben voilà.
Vous avez tout à fait raison.
Et sans doute, parce que
c'est pas fréquent. C'est pas fréquent, ben non, la jouissance de la poitrine.
Oh,
et là, c'est votre histoire qui a commencé il y a
très
longtemps.
Mais vous savez, ce qui m'a fait deviner ça, c'est la manière dont vous avez parlé de vous occuper des enfants.
Et
j'ai senti quelque chose qui était de l'ordre du plaisir, pas sexuel évidemment, mais quelque chose qui avait été très important pour vous. Et si ça se trouve, il y a eu ces premiers émois sensuels. Et quoi qu'on en dise, quand on travaille sur la fantasmatique, on voit bien que les trois quarts du temps, les fantasmes remontent à l'enfance.
Au tout début de ce que vous disiez, Virginie, vous avez parlé d'une famille et puis vous avez insisté sur le trait. Une famille très nombreuse, c'était combien ?
15.
Eh oui. Voilà, c'est ce que j'avais cru entendre.
15 enfants.
Mais vous avez été la maman de combien d'entre eux, puisque vous le dites. C'était logique à l'époque. Vous étiez la maman de combien? 4, 5 d'entre eux, plus.
Parce que j'étais l'aînée.
Vous étiez l'aînée.
Donc, forcément, oui.
La moitié d'entre eux étaient la maman.
Oui. Voilà, oui.
Eh ben écoutez, merci de ce très beau témoignage.
Et puis
maintenant vous avez l'autorisation.
Et vous avez été autorisé, ne vous posez aucune question.
Alors je vous propose une petite devinette et puis on continuera évidemment à évoquer tout ça après les infos.
En général, j'y arrive pas, Brigitte, mais allez-y.
On dit qu'un acte sexuel sur le plan calorifique, ça correspond à une
sur
cour
le plan
des calories.
Ah, calorique.
Sur le plan des calories, des calories qu'on dépense. Hein. Ça correspondrait à peu près à 7 kilomètres. Alors, pourquoi ça peut pas être vrai? Vous avez le temps des infos pour me donner la réponse. Vous verrez, la réponse est assez drôle.
Comment se construit notre sexualité et quelle est l'influence de notre éducation et notre culture? Venez en parler avec nous, notre standard vous attend, 0826 300 300.
Sud Radio Aurillac
101
Sud Radio. Ne bougez pas, dans un instant, retour de Brigitte Lahaye, Sud Radio.